Le podcast qui suit est un podcast de Radio Librex, une chaîne de podcasts lancée fin 2020 par le Cercle du Libre Examen de l'ULB. En complément aux journaux, aux conférences et aux événements organisés sur le campus, le Cercle du Libre Examen propose des entretiens avec plusieurs intervenants et intervenantes où nous abordons des sujets et enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Et nous proposons un regard sur ces différentes thématiques. Ces podcasts sont disponibles sur le site de Radio Librex ou sur des plateformes comme Spotify, mais aussi, vous l'aurez compris, sur Radio Campus. Les épisodes sont publiés tous les mercredis à 23h et rediffusés le lundi à 9h sur 92,1 MHz FM en région bruxelloise. Bonne écoute! Ceci est la deuxième partie du podcast dans lequel on questionne les liens entre le genre et l'écologie. Nous poursuivons notre réflexion sur ce sujet, toujours avec nos deux intervenantes, Nathalie Grandjean et Éléonore Barlet. On avait fini la première partie par se demander si les changements climatiques pouvaient augmenter les violences faites aux femmes.
Oui, mais parce que dans les situations de crise, qu'elles soient politiques, économiques, environnementales, c'est les femmes, mais de manière générale, je pense que ce sont les catégories de la société qu'on dit minoritaires et opprimées, et je mets vraiment des guillemets, qui payent les pots cassés et qui prennent en pleine face, en fait, les violences, parce qu'on en tient tout simplement, entre guillemets, pas compte. Et donc la pression s'accentue, on est complètement aveugle à toute une partie des réalités vécues par ces populations, ces publics, enfin ces personnes, dont je fais en partie partie. Et donc, je pense que ça peut vraiment être violent, et d'autant plus les fragiliser, d'autant plus dans leur accès à tout ce qui est nécessaire pour vivre, mais aussi dans leur accès aux espaces de décision pour pouvoir faire changer les choses. Et les violences, c'est vraiment pour ça que je lis dans ma conception la lutte écologiste, écologique, et la lutte féministe. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas détricoter l'une sans détricoter l'autre. Justement parce que le risque, c'est qu'on augmente les violences, c'est qu'on augmente les inégalités. Moi, je ne veux pas d'un monde où on m'a dit qu'on a fait la révolution écologique, mais que je me rends compte qu'en fait, j'ai deux fois plus de choses à faire. Je dois me battre deux fois plus pour accéder aux espaces de décision, avoir ma place dans la société. C'est juste invivable. Et l'avènement d'un changement ne doit pas continuer à perpétrer des oppressions. Si on veut un vrai changement de système, alors il faut tout détricoter.
Alors, toutes les crises, en fait, augmentent les violences faites aux femmes. Vous voyez, là, ça fait un an qu'on est en crise. On est dans une crise sanitaire depuis un an. Les violences faites aux femmes, elles ont considérablement augmenté. Donc, toutes les crises, en fait, vont en défaveur des femmes. Ce sont toujours les premières impactées. Alors, d'une part, elles sont impactées parce qu'elles perdent en général de l'autonomie, elles perdent souvent des capacités financières, donc je dirais de manière générale pour toutes les crises, et elles perdent ça. Et puis surtout, dans le cas des violences faites aux femmes, qui sont majoritairement opérées par les hommes, comme les hommes perdent aussi, si vous voulez, dans les crises. Tout le monde perd dans la crise, hein. À part quelques élites qui ne perdent rien, mais pratiquement toutes les classes moyennes et populaires perdent. Donc les hommes, si vous voulez, se retrouvent dans un état souvent de perte, ce qu'eux vont intégrer comme une perte de virilité, quoi. Ils perdent du salaire, ils n'ont plus leur voiture qu'ils veulent, ils ont toute une série de frustrations, et on sait que ça se reporte en général sur les femmes. Donc oui, je pense que les changements climatiques, qui seront mille fois plus importants que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, hein, les impacts sur les femmes seront considérables. Ça va augmenter les violences faites aux femmes, très, très certainement, hein, puisqu'il y aura une situation de précarisation générale, si vous voulez. Ça va impacter la vie des femmes, et il n'y a pas de raison que ça ne diminue pas, que ça diminue les violences faites aux femmes, bien au contraire.
Donc, comme pour toutes les crises, le changement climatique risque d'augmenter les violences faites aux femmes. Mais parmi les femmes, toutes ne sont pas égales. Car dans nos sociétés, le genre n'est pas le seul critère sur base duquel des personnes sont discriminées. Certaines personnes subissent d'autres oppressions spécifiques, par rapport à leur classe, à leur race, à leur situation de handicap, à leur orientation sexuelle, etc. Dans ce podcast, nous nous sommes concentrés sur les liens entre les rapports de genre et les enjeux écologiques. En se posant ces questions, nous avons mis en avant l'importance d'inclure une réflexion féministe dans les mouvements de lutte écologiste. Nous avons compris qu'une lutte ne pouvait pas aller sans l'autre. Mais cette réflexion ne doit pas s'arrêter à la problématique du genre. Il est urgent de découler cette réflexion sur les autres dynamiques d'oppression qui prennent place dans nos sociétés. Il nous semblait ici important de toucher un mot sur le lien qui peut aussi être fait entre la destruction de l'environnement et l'oppression des personnes racisées. Nous pouvons faire plusieurs parallèles avec les conclusions que nous avons déjà tirées par rapport au genre. Nous avons vu que les femmes risquaient plus gros en cas de catastrophe climatique et qu'elles étaient pourtant sous-représentées dans les postes de prise de décision au sein des instances traitant des questions écologiques. Le même constat se dessine pour les personnes racisées. En 2019, une chercheuse et un chercheur de l'Université de Pittsburgh et de l'Université Rice ont réalisé une étude aux États-Unis. Cette étude a démontré qu'après une catastrophe naturelle, les familles blanches s'en sortaient financièrement beaucoup mieux que les familles afro-américaines et sud-américaines. Ceci s'explique par le fait que les aides de l'État sont inégalement réparties. Dans les faits, on constate que les publics déjà fragilisés reçoivent moins d'aides à la suite de ces catastrophes. L'étude a montré que ces aides ont pour effet de discriminer en fonction de la race et de la classe, et cela a pour conséquence de creuser les inégalités. Or, on sait que les ménages les plus aisés ont une part de responsabilité bien plus importante que les ménages les plus précaires dans les émissions de gaz à effet de serre. En gros, les riches polluent plus et sont moins exposés au risque de la crise environnementale, dont ils sont les principaux responsables.
Ces grandes inégalités face aux conséquences du changement climatique, on les observe aussi d'un point de vue international. Durant la COP26, la militante kényane Elizabeth Watuti nous alertait du fait qu'au Kenya, plus de 2 millions de personnes souffrent déjà de la famine liée au changement climatique. Lors de son discours, elle a rappelé que dans les prochaines décennies, la crise climatique fera que rien qu'en Afrique subsaharienne, 86 millions de personnes deviendront des réfugiés climatiques. Ceci alors même que les habitants et habitantes d'Afrique subsaharienne ne sont responsables que de 0,5% des émissions historiques de CO2 dans le monde. En fait, on en vient au même constat. Des personnes moins responsables du changement climatique, mais atteintes plus violemment par ses conséquences. À côté de ça, les personnes racisées sont totalement sous-représentées et invisibilisées des espaces de prise de décision qui portent sur la question environnementale. Toujours à la COP26, de nombreuses militantes, dont Elizabeth Watuti, ont parlé du fait que les personnes directement concernées n'avaient pas l'occasion d'être représentées. Et elles dénonçaient cette sous-représentation. Comme autre exemple, une analyse récente a classé les 1000 chercheurs et chercheuses les plus influents concernant la cause climatique, c'est-à-dire ceux et celles qui sont le plus publiés et qui ont le plus de visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi qui participent le plus à des débats sur le climat, et qui ont en fait une grande influence sur les autres scientifiques, sur l'opinion publique, sur les militants et militantes, et les dirigeants et dirigeantes politiques. Au sein de cette liste, il n'y avait que 5 chercheurs africains sur 1000 chercheurs au total. Et il n'y avait d'ailleurs que 122 femmes. Globalement, la recherche scientifique sur le climat est dirigée par des hommes qui viennent des pays occidentaux. Ce secteur est lui aussi un secteur inégal, dans lequel il reste compliqué de se faire une place lorsque l'on n'est pas un homme blanc. Et la conséquence de tout ça, c'est que les besoins des publics les plus vulnérables au changement climatique sont invisibilisés, puisque ces personnes ne sont pas représentées.
Il y a un autre parallèle que nous pouvons faire avec les oppressions basées sur le genre. Plus tôt dans ce podcast, nous avons été chercher les liens historiques entre l'exploitation des ressources naturelles et l'oppression des femmes. Dans notre histoire, comme l'a expliqué Nathalie Grandjean, il y a aussi eu un lien entre le moment où la terre a été considérée comme une ressource à exploiter et le moment où, par la colonisation, des peuples entiers ont été envahis brutalement, déconsidérés et exploités. Comprendre l'histoire de la colonisation est fondamental pour comprendre ces liens. Pour creuser cette problématique, nous vous avons mis quelques ressources en description que nous vous invitons à aller consulter.
Toujours à la COP26, de nombreuses militantes, dont Elisabeth Watuti, ont touché un mot pour toutes les personnes directement concernées qui n'avaient pas eu l'occasion d'être représentées. Elles dénonçaient cette sous-représentation.
En conclusion, la lutte écologiste, en plus d'avoir besoin d'une approche féministe, a urgemment besoin d'une approche décoloniale. Et cette lutte doit aussi pouvoir entendre et prendre en compte les autres dynamiques d'oppression. Dans une interview, une membre de la coalition Climat, Alba Serre Peresteran, disait « On ne peut pas parler de l'humanité et de son futur sans parler des relations de pouvoir qui sévissent entre les humains. » Nous trouvons ça très juste. C'est ce que revendiquent de nombreux collectifs à travers le monde. Et beaucoup de militantes portent depuis longtemps un discours féministe et décolonial dans leur combat écologique. Elles luttent pour une réappropriation des ressources dont des populations entières ont été dépossédées, et elles mettent les femmes en premier plan de cette lutte. Par exemple, la militante Wangari Maathai, au Kenya, a fondé en 1977 le Green Belt Movement en réaction au phénomène de déforestation et d'érosion des sols qui touchaient son pays. Elle s'était rendue compte que les forêts de sa région étaient vendues par le président de l'époque à des industriels qui rasaient tout. Wangari Maathai a mobilisé les femmes des villages kényans à s'enchaîner aux arbres pour lutter. Et grâce à cette lutte, elles ont pu se faire entendre des médias et des ONG internationales et ont obtenu des subventions pour lancer une campagne de reforestation dans cette région. Fatima Ouassak compte aussi parmi ces militantes qui prennent en compte les discriminations de genre, de race et de classe dans leur combat contre la crise climatique. Avec plusieurs autres maires de quartiers populaires préoccupés par les enjeux liés à l'alimentation, elles ont mené une lutte pour qu'une option végétarienne soit disponible à l'école de leurs enfants. Après cette lutte, elles fondent le collectif Front de Mer pour mener la lutte écologique, féministe et antiraciste à plus grande échelle. On pense aussi à Vandana Shiva, qui a lutté en Inde pour une réappropriation des semences par les paysans et paysannes en mobilisant les femmes des régions concernées et a théorisé plusieurs concepts de l'écoféminisme.
À la COP26, elles étaient nombreuses à s'être déplacées pour mettre ces questions en premier plan. On a mentionné Elisabeth Watuti, mais il y avait aussi Léa Thomas, Fatou Dieng, Alice Patxo, Vanessa Nakate et plein d'autres femmes d'origine et de milieux différents qui se mobilisent pour le climat. On s'est donc demandé, est-ce que cette plus grande mobilisation des femmes s'explique par le fait qu'elles sont plus touchées par les crises présentes et à venir ?
Dans les luttes écologistes, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, ou dans les pays dits du Sud, hein, ce sont d'abord les femmes, en fait, qui participent aux luttes écologiques. Et ça, on l'a bien vu durant ces marches pour le climat. Dans toutes ces marches, hein, donc Adélie Charlier, Greta Thunberg, bon, ce sont des femmes, des jeunes femmes, d'ailleurs. Hein, donc ça, on a vu ça. Donc les femmes se sentent concernées et elles prennent l'initiative. Et on a vu ça aussi dans les années 90, il y a eu un courant écoféministe qui était fort présent, je dirais, dans les pays dits du Sud, avec Vandana Shiva, avec Maria Miss. Et là aussi, hein, dès qu'il y a... Maria Miss et Vandana Shiva, elles racontent... Voilà, on voyait bien que dès qu'il y avait un problème, c'est-à-dire une invasion, une pollution sur un territoire ou bien menace de destruction sur une forêt, un territoire, un lieu, etc. C'était les femmes qui, en premier lieu, étaient là. Donc, je ne sais pas si toutes les femmes sont concernées. En tout cas, dès qu'il y a des grandes menaces, les femmes sont pratiquement toujours là ou en tout cas, elles sont majoritaires. Hein. On a vu ça aussi dans les premières luttes écoféministes dans les années 80 aux États-Unis, en Angleterre. On continue à voir ça dans les mouvements maintenant en transition. Hein, tous ces mouvements en transition sont les activistes sont majoritairement des femmes. Alors les porte-paroles ne le sont pas forcément. Hein, ça c'est toujours la difficulté. C'est que à part ces filles très courageuses que sont Adélie Charlier, Anna de Wever et Greta Thunberg qui elles prennent la parole et n'ont pas peur d'être mises en avant. Bien souvent les femmes, alors soit voilà, elles n'ont pas eu envie ou bien on ne leur a pas laissé la possibilité d'eux. Donc il y a peu finalement d'images de femmes dans les luttes les plus anciennes. Or, on sait qu'elles sont en majorité là. Donc oui, je pense, hein, je dirais que d'un point de vue, je dirais un peu domestique, il y a une socialisation qui fait que les femmes se sentent concernées, hein, d'une part par le domestique, mais aussi par un domestique qui aille mieux, donc elles se sentent concernées. Et en même temps, dans tout ce qui concerne les luttes, les femmes sont en majorité présentes. Hein, et ça, il y a toute une série de chiffres, donc il y a une objectivité à ça, tant dans leur présence dans les luttes, mais aussi on sait que, par exemple, si vous voyez le vote envers les mouvements écologistes ou bien l'approbation, ben, ce sont les femmes aussi qui sont majoritairement en vote pour les mouvements écologistes, beaucoup moins les hommes. Donc oui, les femmes sont majoritairement plus concernées.
Donc j'ai pas de réponse unique, mais une des premières réflexions que je me suis faite, c'est de me dire que les femmes, en fait, elles ont toujours été présentes dans les luttes sociales et politiques. On les a invisibilisées, on a oublié leurs apports, on a oublié tout ce qu'elles ont produit aussi pour les luttes, que ce soit les travaux qu'elles ont pu réaliser, les prises de parole qu'elles ont pu faire, tout l'apport en termes de travail invisible qu'elles ont pu amener pour permettre aux luttes sociales et politiques de s'ouvrir. Donc en fait, c'est pas nouveau que les femmes travaillent et s'intègrent dans des mouvements politiques et sociaux pour réclamer plus de droits et des avancées. Et moi qui me remplit de joie, hein, c'est de voir que là, on les voit d'autant plus et on les entend. Et je suis pleine de, je sais pas, j'ai un grand sentiment de fierté ou de sororité par rapport à ça, parce que je trouve que c'est, voilà, elles incarnent quelque chose de très puissant, je trouve. Et puis bon, c'est sans oublier aussi le fait que dans les engagements écologiques et écologistes, climatiques, les femmes se sont toujours mobilisées, et les femmes du Sud en particulier. Et donc là, ça rejoint la question de est-ce que ça augmente les violences, et est-ce que c'est parce que ça augmente les violences et les risques d'oppression que ce sont les femmes et les personnes marginalisées ou opprimées qui s'élèvent. Je pense qu'il y a de ça, oui, parce que ces personnes-là constatent très vite les effets délétères des crises sur leur propre niveau de vie, sur leur propre réalité au quotidien, et aussi sur leur réalité en termes d'incapacitation, entre guillemets. Et donc, oui, je pense que ça peut l'expliquer en partie. Après, je trouve que c'est intéressant parce que, notamment en Belgique, est-ce que c'est Hanouna de Wever qui revendique aussi la question de, enfin, qui porte cette interrogation au niveau de la non-binarité. Elle revendique plutôt un discours queer par rapport à sa propre identité, si j'ai bien compris. Et je trouve que c'est vraiment passionnant parce que elle amène cette question de la dualité masculin-féminin. Est-ce que l'identité de genre que vous m'avez attribuée ou que la société m'a attribuée correspond à celle que j'ai envie ou que j'ai besoin d'exprimer et avec laquelle je me sens en accord? Et je trouve que ça questionne très fort cette dualité qu'on a eue depuis dans la société occidentale, la dualité masculin-féminin, nature-culture. Voilà. Et donc je pense qu'il y a... En tout cas, là, je vois émerger des choses passionnantes, d'autant plus aussi avec les questions décoloniales ou ce genre de choses, de discours très en dehors de la norme blanche, patriarcale, hétéronormée, etc., qui, moi, m'enthousiasme très fort parce que, du coup, ça rebat vraiment les cartes. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a vraiment une nouvelle voie à construire en termes de révolution écologique et féministe et décoloniale et antiraciste et tout ça. Donc, ouais, enfin, moi, je suis pleine de joie de voir ça émerger, en tout cas.
Il y a effectivement de plus en plus de mobilisations qui prennent de la place et de collectifs qui émergent. Des femmes manifestent, collent, se rassemblent et s'organisent pour dénoncer les inégalités du système patriarcal. On vous conseille d'ailleurs le documentaire « Les nouvelles guerrières » de Elisa Vedeka, qui présente plusieurs collectifs bruxellois et donne de la force et de la joie. En plus de se rassembler, les femmes obtiennent des victoires et des avancées.
Ce que réclament maintenant ces mouvements féministes qui sont maintenant à la quatrième vague, hein, donc que les jeunes femmes, filles maintenant essaient de réclamer, c'est-à-dire changer le regard sur les femmes, c'est aussi changer un regard sur le monde, si vous voulez. C'est essayer d'opérer une transformation du regard, c'est-à-dire de se dire qu'on ne doit plus entretenir vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des vulnérables, quand je dis les femmes, parce que le féminisme, on a vu de tous les vulnérables, de toutes les minorités aussi, un regard de prédation, c'est-à-dire qu'on doit sortir d'une logique où il y aurait toujours des gagnants et des perdants, c'est-à-dire d'une logique militaire, militariste, pour finalement rentrer, alors je ne vais pas tomber non plus dans un angélisme un peu béat, rentrons dans le monde des bisounours, parce que ce serait évidemment très facile de répondre comme ça, mais comment dirais-je ? Essayer de voir autrement, à la fois les corps des femmes, des minorités, de tous ceux qui sont vus en état justement d'infériorité comme le sont les femmes au prime abord, mais aussi changer notre rapport à la nature, quoi.
En fait, on touche là à l'essence du problème. Il faut changer notre façon de percevoir la nature pour la préserver et pour arrêter de la détruire. Et il en va de même pour les dynamiques patriarcales. Les femmes ne doivent pas être perçues comme des dominées au service des hommes. Et on doit appliquer la même logique pour la transition écologique. Il n'est plus question que les hommes abîment et que les femmes réparent. Donc comment assurer une transition écologique sans que celle-ci ne repose sur les femmes ? Autrement dit, comment imaginer une transition écologique et féministe ?
C'est une très bonne question. Alors, sur la charge mentale, je vais répondre comme on répond de manière générale, il faut que les hommes prennent leur part. Ce qui, à mon avis, est important à faire pour les hommes, leur révolution ou leur transition, c'est de se dire, bon, évidemment, il faut qu'ils prennent leur part, mais il faut aussi qu'ils s'interrogent sur quelle masculinité ils souhaitent incarner. Parce que ça, c'est, à mon avis, la grande... pas la grande difficulté, mais le grand chemin qu'il leur reste à faire. Les féministes, les femmes et les féministes ont beaucoup réfléchi sur leur féminité. C'est quoi être une femme? C'est quoi être féministe, etc. Alors, les hommes commencent à le faire. Il y a pas mal de travaux. Je pense notamment à un auteur que j'aime bien, c'est Francis Dupuy-Déry, qui a beaucoup travaillé sur la question de la masculinité et justement sur cette question de la masculinité en crise, où la masculinité serait toujours en crise, donc il faudrait la préserver. Et donc là aussi, il y a comme une concomitance. Il y a une crise sanitaire, il y a une crise climatique, et en plus, les masculinités sont en crise. Mais les hommes, il faudrait vraiment s'ils perdent la masculinité, ils perdent tout, si vous voulez. Alors bon, ça, à mon avis, c'est quelque chose aussi sur lequel il y a un gros travail. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme au XXIe siècle dans un contexte de crise sanitaire, de crise climatique et dans un état du monde où on va droit dans le mur, quoi.
Le changement de regard sur la nature et les femmes passe donc aussi par le fait de repenser les masculinités. Si conduire un gros SUV, manger beaucoup de viande rouge et être un conquérant sont des comportements considérés comme virils et donc, jusqu'à présent, valorisés. Ces comportements ont-ils encore un sens aujourd'hui ?
On en revient en fait à ce qu'on disait au début. Les hommes doivent pouvoir s'émanciper des stéréotypes de virilité dans lesquels ils ont été socialisés pour ne pas craindre la remise en question de leur masculinité lorsqu'ils prennent un taux de bague. Changer leur perception de la masculinité leur permettra d'adopter un comportement moins néfaste pour l'environnement.
Mais ce changement d'attitude ne résout pas tous les problèmes dus à la crise climatique. Il faut une sensibilisation collective et des petits pas, mais aussi des prises de mesures drastiques à grande échelle pour faire face à la crise environnementale. Il est important de voir les enjeux environnementaux comme faisant partie d'un système, c'est-à-dire en prenant en compte tous les liens qui opèrent, en y intégrant des composantes sociales, économiques et politiques pour réellement faire face à l'ampleur du problème.
Mais effectivement, pour ne pas reproduire les oppressions, alors il est nécessaire de déconstruire la totalité du système. Et je ne parle pas seulement de la question de la domination de la nature, de la domination des femmes, ou de la domination des personnes racisées, ou ce genre de choses, ou l'oppression. C'est aussi, et là, ça n'engage que moi, la déconstruction du système économique tel qu'il fonctionne, avec ses logiques ultra-libérales, capitalistes, qui privilégient des non-sens humains, écologiques, sociaux. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai cette sensation qu'on n'aura pas une réponse toute faite, parce qu'il faut vraiment prendre ça par la grande lorgnette. Évidemment qu'au quotidien, c'est super de pouvoir avancer sur des petites choses, mais j'ai cette réserve sur le fait que, du coup, ça devienne des choses individuelles et qu'on ne collectivise pas la lutte.
Il faut aussi, à mon avis, je dirais de manière plus structurelle, voilà, s'interroger sur le modèle néolibéral dans lequel on est, quoi. Qui est un modèle néolibéral qui broie, qui est un modèle qui broie tout le monde. Hein, je veux dire les femmes, la nature, mais finalement les hommes aussi. Donc quelque chose d'insensé. On vit dans un truc complètement insensé où tout le monde est broyé à l'extrême et tout le monde devient une ressource.
Notre réflexion a commencé par une interrogation sur les dynamiques de genre au sein de la lutte environnementale. Mais là, on en vient à parler économie et politique. Il faut tenter de comprendre le système dans lequel s'inscrivent les enjeux environnementaux pour s'y attaquer dans son ensemble, et pas uniquement à l'échelle individuelle, mais collectivement, pour induire un réel changement. Et après la compréhension des enjeux, vient la lutte. Donc comment est-ce qu'on lutte, tous et toutes ensemble ?
Pour éviter de reproduire les oppressions et que ça retombe sur l'épaule de toujours les mêmes. Il faut penser ça. Une des pistes, à mon sens, c'est de reconstruire de nouvelles solidarités et de vraiment réfléchir à la question de la lutte en tant que collectif au pluriel et de comment est-ce qu'on articule, je ne parle pas de convergence absolue des luttes, mais d'articulation de ces luttes qui ont conscience des unes des autres, qui discutent entre elles pour articuler des nouvelles solidarités entre ces luttes-là de déconstruction. Et donc, ça va prendre du temps, ça risque d'être très houleux parfois. Mais je pense qu'il y a des vraies, il y a des vraies opportunités, il y a des vraies porte qui s'ouvre en fait, ne serait-ce que voilà, on parlait tout à l'heure de l'analyse que j'ai faite dans les organisations, parce que c'est ce que je connais. On peut vraiment commencer à réinterroger, par exemple, une des solutions, une des multiples solutions possibles, en tout cas dans un temps moyen terme, c'est peut-être de réinterroger nos méthodes de gouvernance. Alors, on peut l'appliquer au système politique dans son ensemble, mais on peut aussi l'appliquer à ces organisations de manière générale, ou ces acteurs de terrain qui réfléchissent et qui expérimentent au quotidien, et je trouve ça fantastique aussi. Voilà, la sociocratie, l'holacratie, les questions de prise de décision par consensus ou par consentement, les élections sans candidat, enfin voilà, il y a des multiples possibilités en termes de gouvernance qui, bon, doivent nécessairement être interrogées avec le prisme du genre, hein, parce que le risque, effectivement, c'est qu'on reproduise nos biais habituels et donc qu'on n'en tienne pas compte. Donc avec les lunettes genre, pouvoir réfléchir à comment est-ce que ces nouvelles manières, ou pas nouvelles manières d'ailleurs, de gouvernance plus horizontale, plus démocratique en termes de participation, peuvent permettre une émancipation et peuvent permettre une plus grande participation et surtout une plus grande... qu'il y ait un vrai espace pour que les paroles qui ont été jusque-là... elles n'ont pas été inaudibles, mais en tout cas niées ou pas entendues, soit prise en compte, quoi. Et donc, je pense que c'est en justement favorisant la participation des femmes, des personnes racisées, etc., dans les cercles de décision, qu'on pourra aussi faire avancer dans un moyen terme les choses.
Donc, en conclusion, continuons à être éco-responsables, évidemment, sans que ce soit à la charge, hein, et que voilà, il ne s'agit pas que les femmes soient les baudets, si vous voulez... hein, de cette espèce de baudet écoféministe qui porte tout sur leur tête, hein, en disant bon, il y a pas question de sacrifice, hein, mais soyons tous éco-responsables dans la mesure, si vous voulez, de notre propre libération, de notre propre émancipation, hein, on ne va pas se réaliéner à travers des gestes éco-responsables qui finalement nous remettent dans une situation d'aliénation, quoi. Il faut faire très attention à ça, hein. Voilà, par exemple, je vous ai mentionné l'allaitement. Bon, l'allaitement, c'est formidable quand tout va bien, mais je veux dire, ça ne se passe pas toujours bien. On ne va pas se mettre dans une situation d'aliénation simplement parce que alors ça devient dogmatique, quoi. Donc, il y a, voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est voilà, avoir des stratégies aussi concertées, sortir d'un individualisme, c'est-à-dire, ah, je fais mon petit zéro déchet chez moi, c'est très bien, bien sûr. Mais ça... je pense que ça, ce que ça demande aussi, c'est ça, ce que les féministes ont fait depuis, enfin essayent de faire depuis longtemps, c'est voilà, essayer de penser de créer une pensée collective, quoi. Et ça, le patriarcat, si vous voulez, tout comme le néolibéralisme, il cherche toujours à casser les collectifs, quoi. Casser le collectif de femmes, le patriarcat, il cherche toujours à faire en sorte que les femmes vont finalement se disputer entre elles, quoi. Et ben, le néolibéralisme fait la même chose, si vous voulez, avec tous ceux qui se mettent en collectif et qui essayent de casser sa dynamique. Donc voilà, c'est en résistant aussi comme ça qu'on va y arriver.
Créer une pensée collective et articuler de nouvelles solidarités entre les luttes. Pour ça, il faut être capable de prendre en compte les réalités de chacun et de chacune. être à l'écoute, faire preuve d'empathie et pouvoir se remettre en question. Face aux enjeux environnementaux, il est en effet intéressant de questionner le rapport qu'on tisse avec les autres êtres humains. Et il est aussi intéressant de questionner celui qu'on tisse avec la nature.
Réinterroger notre lien à la nature, sans l'essentialiser, d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé à la nature, à l'environnement, et beaucoup moins dans cette espèce d'arrachement nature-culture. D'interroger aussi ce que ça veut dire, cette part soi-disant masculine, soi-disant féminine, et de cultiver cette part dite féminine du care, du soin, etc., dans chacun des individus qui peuplent cette planète, hommes, femmes ou autres, et que ça ne doit pas être attribué à un genre spécifique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est cette question de qu'est-ce que ça fait d'avoir un autre rapport à l'environnement et à la nature. Et donc moi, je le comprends très fort comme ça. Et c'est là que je dis que c'est réinventer ses solidarités, etc. Et c'est aussi une merveilleuse possibilité d'être inventif, en fait, et d'être beaucoup plus connecté à ces enjeux-là, sans que ce soit l'apanage des femmes du tout.
Notre époque se retrouve à la croisée d'un grand nombre d'enjeux. Les enjeux écologiques sont angoissants et vertigineux. Ils questionnent nos rapports à la nature, mais aussi nos rapports entre êtres humains. Et il y a beaucoup à réinventer.
Et heureusement, il y a aussi beaucoup de luttes qui émergent. Des luttes qui bousculent, des luttes qui réinventent.
Qui mobilisent, qui rassemblent, qui donnent de la force.
Qui font de plus en plus entendre leur voix.
Qui permettent des avancées et des victoires.
Et qui sont de plus en plus rejointes, soutenues et portées par les nouvelles générations.
Il y a plein de luttes, si vous voulez, qui ont montré que ça marche. Tant des luttes écologiques que des luttes féministes qui ont montré, voilà, la résistance, ça fonctionne, quoi. Hein, les femmes qui ont passé des années, si vous voulez, pour protéger un territoire, si vous voulez, le Greenham Common Green Camp, voilà, un territoire qui allait être envahi de missiles. Voilà, les femmes ont entouré ce territoire, elles l'ont gardé, elles l'ont protégé, si vous voulez, il n'y a pas eu les missiles. Dans les ZAD, on voit qu'il y a plein de ZAD, si vous voulez, qui sont sauvés grâce au fait que les gens se mobilisent, hein, qu'il y a des femmes et des hommes qui se mobilisent, là, en l'occurrence. Et pareil, pour, voilà, des luttes féministes qui ont permis, quand même, de faire en sorte que ça change. Donc, oui, moi, je pense que c'est effectivement, il faut se mobiliser, quoi. Il faut se mobiliser par tous les moyens, et tous les moyens, voilà, qui nous semblent, qui correspondent à ce que nous sommes.
Ce podcast est une collaboration entre le Cercle du Libre Examen de l'Université Libre de Bruxelles et ASBIN, une ASBL qui veut rendre l'alimentation durable plus accessible aux étudiantes et aux étudiants.
Merci à Lucas pour son aide précieuse pour l'enregistrement et le montage de ce podcast. Merci à nos deux intervenantes, Éléonore Barlet et Nathalie Grandjean. Et merci à vous pour votre écoute.
Ici se termine le podcast de Radio Librex, Genre et écologie, Lutte écologiste et justice sociale, deuxième partie, est publié le 6 mars 2022.